Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes en mai 2011, Roger a 67 ans, il est à la retraite et il vit à Argenteuil. Ce jour-là, il reçoit un appel de son pharmacien qu'il connaît depuis 20 ans, mais avec qui il n'a jamais eu de contact particulier. L'histoire est racontée par Le Parisien de l'époque, entre autres. Inquiet, un peu gêné, le pharmacien demande à Roger s'il va bien. Oui, il va très bien, pourquoi ? Parce que l'assurance maladie refuse de rembourser au pharmacien les médicaments que Roger a pris, au motif que l'assuré est décédé. Interloqué, Roger apprend en plus que tant qu'il n'aura pas fourni lui-même la preuve qu'il est vivant, la sécu n'en démordra pas. Après quelques recherches, l'assuré décédé finit par découvrir qu'on lui a attribué la mort d'un certain Xavier Roland Martin le 12 février 2011, un homme avec qui il ne partage rien d'autre qu'une syllabe. L'erreur est rectifiée, Roger ressuscité pense que tout va rentrer dans l'ordre. Quelques semaines plus tard, son épouse reçoit pourtant une lettre destinée aux héritiers de son mari, relative au versement de sa retraite. Et lorsque Roger appelle la dite caisse de retraite, on le suspecte à nouveau d'être mort. Il est désormais sommé de fournir un certificat d'existence qu'il doit demander à la mairie pour continuer à toucher sa retraite. Mais le document en question n'existe pas, il lui faut désormais trouver un extrait d'acte de naissance très particulier pour apporter la preuve officielle de son existence. Son enveloppe corporelle ne suffit apparemment pas. Tandis que son corps bataille néanmoins pour se procurer le document, la caisse de retraite finit par passer par l'épouse de Roger. Elle lui demande de demander à son mari de rédiger une attestation sur l'honneur qu'il est toujours vivant. L'affaire finit donc par s'arranger, mais on comprend mieux pourquoi certains, y compris parmi les plus puissants, souffrent aujourd'hui de phobie administrative. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires dans lesquelles il a fallu faire la preuve, batailler face à des montagnes de papier pour faire valoir des droits bien légitimes. Deux histoires racontées par Judith Chetrit.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'avais ici une salle de conditionnement des œufs entièrement automatisée avec un système de ramassage automatique avec un palettiseur. On peut voir que les œufs passent en hauteur au-dessus de nous et malheureusement, aujourd'hui, tout est à l'arrêt et ça fait mal. Alors, je suis éleveur à Saint-Tricat, donc Pascal Buté. Saint-Tricat se trouve dans les Hauts-de-France et je suis producteur d'œufs depuis 92. J'ai 54 ans aujourd'hui et trois enfants, dont un qui avait le projet de s'installer sur mon exploitation après moi. Alors la production d'œufs est très ancienne puisque mes parents faisaient déjà des poules, mes grands-parents faisaient des poules. Lorsque j'ai repris l'exploitation, j'ai commencé avec 10 000 poules et aujourd'hui, jusqu'en juillet 2017, j'avais 60 000 poules. En termes de volume dans le monde avicole, 60 000 poules n'est pas très très important puisque aujourd'hui 20 millions d'œufs, ça représente grosso modo deux camions par semaine. Et pour avoir, je dirais, une fraîcheur des œufs qui arrivent dans les magasins, il faut ramasser les œufs donc trois fois par semaine. Et donc, de ce fait-là, 60 000 poules est une petite unité, industrielle soit, mais une petite unité. Et en termes de ramassage hebdomadaire, c'est malheureusement un minimum. Donc, je représente une petite structure. Donc, tous les ans, je fais un vide sanitaire. Le vide sanitaire, ça consiste à enlever les précédentes poules, réaliser un nettoyage et une désinfection et un insecticide sans présence des animaux, donc sur tout le matériel. En juin 2017, j'avais la prestation d'une personne d'une société habituelle pour nettoyer mes poulaillers, comme d'habitude. Malheureusement pour moi, cette année-là, il m'a signalé qu'il y avait un produit qui apparemment était à base de plantes. Donc, c'était vraiment l'idéal d'utiliser ce produit-là, qui en plus était très efficace pour combattre les insectes tels que les poux rouges dans l'élevage avicole que j'ai ici. Et les poulettes sont rentrées le 27 juillet 2017 au matin. Et malheureusement, le scandale, je dirais, de cette contamination est sorti en Belgique le 27 après-midi. Dans cet insecticide, il s'est avéré qu'il y avait présence de cette molécule de fipronil qui a été ajoutée frauduleusement, qui est totalement interdite dans tout élevage destiné aux produits alimentaires. Bon, le produit a été fabriqué en Belgique avec des dirigeants hollandais qui ont été chercher cette molécule en Roumanie. Et j'ai su, par l'intermédiaire de mon fournisseur de poulettes, qu'il y avait eu des contaminations importantes avec ce produit-là. Le prestataire m'a dit que lui, il n'était pas au courant, puisque c'est une fraude également pour lui, puisqu'il a utilisé ce produit sans savoir ce qu'il y avait dedans, puisque forcément, cette molécule n'était pas spécifiée sur l'étiquette de ce produit, puisque le fournisseur l'avait mis frauduleusement. C'est là que j'ai averti les services vétérinaires immédiatement pour savoir ce que je devais faire. Lorsqu'on a fait les premiers prélèvements, les poulettes sont arrivées le vendredi matin. Nous avons fait les premiers prélèvements d'œufs sur les premiers œufs pondus le mardi et la contamination était déjà présente au niveau des œufs. Non pas par le système, je dirais, de fabrication intérieure de la poule, fabrication de l'œuf, mais par contamination, par contact. Et là, c'est extrêmement rapide. Le risque avec le fipronil n'est pas très important en mangeant des œufs, puisque il faut arriver au seuil d'avoir ingéré 17 œufs par jour pendant 3 semaines pour avoir quelques effets indésirables. On peut décemment prendre la conséquence qu'on est malade avec les œufs avant d'être malade avec le fipronil, en mangeant 17 œufs par jour. J'ai averti les services vétérinaires parce que je ne pouvais pas garder un secret comme ça. C'est en plus pas dans mon caractère, donc j'aime mieux dire les choses. Malheureusement, en prévenant les services vétérinaires, je savais que ça allait être une spirale infernale pour moi par la suite. Je n'avais pas commercialisé d'œufs du tout à ce moment-là, puisque les poules venaient d'arriver, donc tous les œufs étaient encore dans mon centre de conditionnement. Et à partir de là, c'était moi qui devais choisir le devenir des poules, soit laisser produire et toujours détruire la production, ce qui n'était pas possible. Donc à un moment donné, il a fallu prendre la décision d'abattre la totalité du cheptel qui venait de rentrer dans le poulailler. Ça a duré quand même un mois, puisque le 27 juillet, il y a eu l'arrivée des poules, et les poules ne sont parties que le 31 août 2017. Donc il a fallu un mois, et donc un mois où les poules ont produit, et il a fallu détruire plus de 2 millions d'œufs qui ont été détruits et incinérés au niveau du département. Et donc là, j'ai eu le soutien de mes collègues agriculteurs qui sont venus m'aider pour jeter la totalité de la production de ce mois de production, pour mettre ça dans plusieurs bennes. Et c'était quand même difficile. Moi, ça fait quand même 25 ans que je fais des œufs. J'ai toujours essayé de travailler pour ne pas les casser. Et là, il fallait tout détruire et tout jeter. Lorsque la totalité des poules est partie de mon exploitation, donc le 31 août, je partais, je dirais, bille en tête de refaire un nettoyage complet, très efficace, par un prestataire, un autre prestataire, puisque là, du coup, c'est vrai que j'avais un peu le doute du prestataire de nettoyage précédent. Donc, par précaution, les services vétérinaires m'ont dit, essayez de mettre quelques poules en test. Surtout que la molécule de fipronil était complètement inconnue pour un système de nettoyage, puisqu'on n'a jamais mis de fipronil sur un support. On a toujours mis le fipronil sur une matière vivante. Et on n'a jamais essayé de retirer cette molécule sur un support. Donc on n'a jamais eu le cas de devoir décrocher cette molécule sur les cages de poules pondeuses ou sur le sol ou l'isolation. Et on a refait nettoyage jusqu'à 11 nettoyages au total. Et ces nettoyages, malheureusement, étaient toujours inefficaces. Les résultats en finalité sont tombés avec confirmation de contamination des œufs en novembre dernier, donc en novembre 2018, où là, il s'est avéré que les œufs étaient toujours contaminés, mais on est passé grosso modo de 50 fois à 20 fois la contamination, mais c'est encore beaucoup trop pour pouvoir mettre des nouvelles poulettes dans l'installation. La seule solution étant de changer le matériel, de refaire une dalle de béton, refaire l'isolation et de remettre du matériel. Le problème aujourd'hui, c'est que qui va payer ce genre de préjudice qui se monte à des montants très très importants. Et à côté de cela, donc j'ai une exploitation agricole en polyculture où je produis des céréales, des betteraves, du lin, des pommes de terre, mais sur une petite surface puisque je n'ai que 60 hectares. Et aujourd'hui, 60 hectares, on ne peut pas vivre qu'avec sur ça. Alors en juillet 2017, je ne savais pas encore que j'étais le seul en France. J'avais entendu qu'il y avait une centaine en Hollande et une centaine en Belgique. J'ai été voir une installation qui avait été contaminée de la même façon que moi en Belgique. Ils ont réalisé une multitude de nettoyages également. Et ils sont arrivés à la conclusion, à un moment donné, de pouvoir remettre des poules pondeuses et remettre en production toute leur installation. Et aujourd'hui, tous les élevages belges ou hollandais ont repris leur activité de production d'œufs. Le meilleur des contaminants, c'est les animaux. Et aujourd'hui, ils n'ont plus du tout de traces de fipronil dans leur élevage. Je pensais que c'était un avantage d'être le seul cas en France. Malheureusement, les services vétérinaires ne me lâchent pas et m'interdisent aujourd'hui de remettre en place le fait que je sois légèrement au-dessus du seuil de contamination sur les œufs aujourd'hui. Je travaille avec un prestataire de poulettes, des jeunes poules, qui est d'origine belge. Et lui-même m'a dit, Pascal, je peux remettre des poules et je reprends les œufs pour les commercialiser en Belgique. Et là, en France, on m'a dit, il est hors de question. Je suis sur le territoire français, donc je n'ai pas d'autorisation de remettre des poules aujourd'hui dans mon élevage. La personne qui s'occupait de mon dossier au niveau du département m'a mis très vite en contact avec le préfet et ils m'ont aidé dans l'acheminement jusqu'aux portes du ministère de l'Agriculture à Paris. Et ce qui m'a permis d'avoir une aide de trésorerie remboursable à ce moment-là, d'un montant de 105 000 euros que j'ai eu au niveau du ministère. Donc ils m'ont aidé quand même très rapidement en mars 2018. Mais cette aide remboursable qui arrive à échéance en février 2020, je suis aujourd'hui dans l'incapacité, même si c'est dans un peu moins d'un an, je suis dans l'incapacité de pouvoir la rembourser puisque je n'ai plus aucun chiffre d'affaires depuis 20-21 mois. Cette situation-là, j'essaie de la repousser au maximum pour essayer d'attendre la finalité, je dirais, du verdict de l'aspect juridique, puisque aujourd'hui on a entamé une procédure juridique, mais qui va durer très très longtemps, puisque l'avocat m'avait prévenu dès le départ que, étant donné que c'est entre la France, la Belgique et la Hollande, l'aspect juridique durerait entre 5 et 10 ans pour avoir le verdict final de l'indemnisation de ce gros sinistre sur mon exploitation. Aujourd'hui, je ne peux même pas démonter le matériel intérieur de bâtiment et utiliser à d'autres effets les installations parce que j'ai besoin de garder la preuve au niveau juridique et si jamais ils demandent une contre-expertise, je suis tenu de pouvoir les satisfaire et donc je suis obligé de laisser en place toutes les installations, tous les bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui. Je n'ai plus du tout la maîtrise de mes bâtiments, de mon outil de travail.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 47 ans. J'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Et je me suis retrouvé tout seul, chez moi, dans une grande maison, puisque une année auparavant, ma cellule familiale avait éclaté. Et puis, là, je suis devenu bénévole au Secours Populaire Français de Meaux, puisque j'habite pas très loin de Meaux. Donc tout de suite, je me retrouve au contact de bénéficiaires. Donc j'ai croisé le chemin de Djibril environ 4 mois après mon arrivée. Il est tout autant bénéficiaire que bénévole. Donc il vient pas seulement chercher des repas, il apporte aussi sa force physique pour justement aider à transporter les choses et aider les gens. Donc Djibril est arrivé en France en 2013. Il avait alors 35 ans. Il vient de Dakar. Quand il quitte le Sénégal, il a une très bonne position. Il est pharmacien dans un hôpital. Sa femme est infirmière. C'est la première fois qu'il vient en France. Il a 2 petites filles là-bas qui, à l'époque, ont 2 ans et 4 ans. Il découvre totalement la France. Et il est arrivé avec un visa touristique de 3 mois. Avec l'idée, dans ces 3 mois, de pouvoir continuer ses études parce que il pensait pouvoir acquérir du savoir dans son métier, qui est un métier hospitalier lié à la pharmacie. Le problème, c'est que son parcours n'a aucune valeur en France. Voilà. Il faut savoir que sa femme a vécu en France durant quelques années, que ça lui a pas du tout plu, et qu'elle est revenue au Sénégal. Donc, dès le départ, dans son arrivée, il n'y a pas la volonté de faire venir la famille. C'était plus, moi j'appelle ça une immigration de rêve. Voilà, c'est-à-dire que il a vu à la télé, il a un lien particulier avec la France, parce que son père a été à l'école de gendarmerie de Melun. Il faut savoir que le grand-père de Djibril était l'un des Sénégalais présents sous l'uniforme français dans la cuvette de Dien Bien Phu, par exemple. Voilà. Et puis un matin, il arrive et je lui dis « Mais t'es tout blanc. » Et il me dit « Oui, je suis fatigué. Écoute, ça fait plusieurs mois que je suis là. Je suis hébergé dans une cité, chez des gens, c'est très bruyant, je n'ai plus d'argent, et donc ces gens-là me prennent, en échange de l'hébergement, la moitié des vivres que me donne le Secours Populaire. » Et donc là, je lui ai dit, bah, écoute, Djibril, moi j'ai une grande maison, je suis tout seul, je veux bien t'accueillir chez moi. Djibril est venu s'installer lors des vacances d'avril 2014. Et en fait, le déclic qui m'a fait dire que les choses allaient bien se passer, à l'heure du repas, j'ai appelé mes enfants pour manger. On s'est installé à table et le canapé où était Djibril est à côté de la table. Et il m'a dit « Vous allez manger ?» J'ai dit « Oui, oui ». Il s'est levé et il est allé dans sa chambre. Et là, je me suis dit, mais il nous laisse notre moment à nous. Il nous laisse notre moment en famille. Il n'est pas intrusif. Dans ma tête, à ce moment-là, c'est 6-8 mois. Le temps qu'il puisse avoir des papiers pour rester en France ou ne pas avoir de papiers et devoir retourner dans son pays. Et donc, à partir de là, il va commencer à entamer ses démarches pour avoir des papiers. Il m'a fait relire ces différents courriers administratifs. Et là, petit à petit, je suis rentré dans ces démarches. Au départ, il demandait un titre de séjour, de manière temporaire, ce qui, à mon avis, il n'aurait jamais eu. Simplement, au fur et à mesure de ses recherches, sur des forums, il s'est rendu compte que c'était peut-être pas un titre de séjour auquel il avait le droit. Le système d'acquisition de la nationalité, il mélange à la fois le droit du sol et le droit du sang. Il mélange à la fois les lois actuelles, mais aussi les lois qui sont issues des colonies. On lui demande notamment l'acte de naissance de sa mère. Sa mère lui dit, mais je n'ai pas mon acte de naissance. Eh bien, il faut que tu ailles le chercher à la préfecture locale. Elle va à la préfecture et là, on lui dit, mais nous n'avons pas votre acte de naissance puisque vous êtes né avant l'indépendance du Sénégal. Donc, vous êtes né sur territoire français. Donc, c'est la France qui a votre extrait de naissance. Et votre extrait de naissance, vous pouvez le demander à Nantes. Ça a été un choc pour sa mère parce que elle s'est toujours vue comme sénégalaise, elle s'est toujours pensée comme sénégalaise et même comme dakaroise. Et là, il me dit, mais ça veut dire que ma mère, elle n'est pas sénégalaise. Et là, moi, je lui dis, écoute, ça dépasse mes compétences juridiques, mais vois avec le Secours populaire français, qui lui contacte une avocate locale, spécialisée dans le droit des étrangers, qui accepte d'étudier son dossier. Et là, en fait, elle se rend compte que non seulement sa mère est née effectivement sur territoire français à ce moment-là et est enregistrée par l'administration française, mais en plus, la mère de sa mère est exactement dans la même situation. Donc là, on remonte sur deux générations où la filiation maternelle lui permettrait à lui d'être déclaré français. Le problème, c'est que au Sénégal, c'est pas comme en France. Au Sénégal, c'est le nom du père qui prévaut sur l'extrait de naissance. Le nom de la mère n'est pas forcément indiqué. Donc, il a fallu que sa mère au Sénégal fasse le cheminement administratif lui permettant effectivement de figurer sur l'extrait de naissance de Djibril. Donc, on dépose un premier dossier milieu 2015 environ à la préfecture de Seine-et-Marne. Et là, il nous est demandé un complément d'information. Les actes de naissance des arrière-grands-parents de Djibril. C'est assez compliqué à retrouver. Heureusement, le grand-père de Djibril ayant été militaire, tout est indiqué dans le livret militaire. L'avocate verse ses documents au tribunal. Trois mois se passent. Et là, l'information qui nous est demandée, c'est d'établir un lien direct entre la France, à l'époque métropolitaine, et le Sénégal. Et là, c'est une autre paire de manches. Il faut donc retrouver un certain Étienne Vallier, qui un jour a quitté la métropole, et qui est le père de l'arrière-grand-mère de Djibril. La seule information qui existe, c'est sa tombe, qui est au Sénégal, donc la famille se déplace, retrouve la tombe. Sur la tombe, il y a évidemment le nom-prénom et la date de décès. Point. C'est tout. Donc on ne sait pas quand est née cette personne sur le territoire français, où elle est née, à quel moment elle est arrivée au Sénégal. Et en fait, là, il me donne une information, il me dit « mais il était militaire ». Donc je dis « ah bah, écoute, on va aller à Vincennes, au service des archives de l'armée, pour aller rechercher dans les journaux de bord des bateaux qui quittaient les ports français à destination des colonies, si on ne trouve pas un Étienne Vallier. On avait établi une vingtaine d'années, parce qu'on ne savait même pas à quel âge il était mort, et ça nous a pris un mois. Et donc, on ne trouve rien. Et puis là, il y avait une jeune femme en tenue civile, et elle nous dit « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Et puis Djibril commence à lui raconter son histoire. Et elle dit « Mais moi, je suis lieutenant-colonel de gendarmerie, bibliothécaire, donc j'ai accès aux archives de l'armée. » Ce Vallier venait de la région Vaucluse-Aveyron. Donc il avait quitté l'armée à 40 ans. Donc a priori, l'âge après lequel il était parti de France. Donc on a pu serrer un peu plus nos recherches. Et un jour, Djibril reçoit un coup de téléphone d'un bibliothécaire de l'Aveyron et qui dit « Bah écoutez, j'ai une coupure de presse où on parle d'un Étienne Vallier, militaire, qui a sauvé deux personnes de la noyade. Et il y a aussi une indication importante qui est agriculteur. » Et là, on recontacte la mairie et ils nous fournissent la copie officielle de l'acte de naissance. On redépose une troisième fois tous les documents au tribunal administratif. Le procureur n'émet aucun avis défavorable. Et ça reste en attente de jugement. Le jugement est tombé le 1er juin 2018 et il établit non pas que Djibril a acquis la nationalité française, mais que Djibril est confirmé dans la nationalité française. Ce qui est assez original dans notre histoire et dans notre rencontre, c'est que moi qui suis né à Paris, j'ai une grand-mère maternelle qui a fui la Pologne, qui a été naturalisée française, qui était mariée avec un homme dont le père était belge. Et du côté de mon père, on a une famille qui est venue d'Italie. Donc, si on regarde bien nos deux histoires, moi, le petit blanc né à Paris, je suis français selon le droit du sol, et lui, le grand noir né à Dakar, il est français selon le droit du sang.
C'était Enquête de preuve, un reportage de Judith Chetrit réalisé par Clémence Grosse. Merci à Pascal Butez et à Nicolas Lavallée. C'est Jeanne Delocroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Zoé-Marie Roulier, notre stagiaire.